beatboxer, auteurice et compositeurice franco-portugaise, Prisha s'identifie comme non-binaire et utilise indifféremment les pronoms « yel » ou « elle ». Pour parler de sa pratique, Yel privilégie l'emploi du terme anglais et neutre « beatboxer », écrit « er » à la fin. Née à Porto, Inès, de son vrai nom, compose des chansons à la guitare, écrit de la poésie et rappe dès l'enfance. À l'âge de 13 ans, Yel découvre le beatbox grâce à Robinho, un candidat de l'émission portugaise La Nouvelle Star. Fascinée par sa performance et la capacité du corps humain à produire des sons, Yel se met à regarder un grand nombre de vidéos de beatbox, de rap et de danse hip-hop et apprend les bases du beatboxing de manière autodidacte. Inès déménage ensuite à Paris, passe son bac et poursuit des études pour devenir psychologue. Mais le beatbox la rattrape et en 2017, Yel s'inscrit au championnat de France In Extremis. À l'occasion, Prisha, qui était son nom de gameuse en ligne, devient son nom de scène. En 2020, Prisha remporte le championnat de France de beatbox en catégorie solo et devient une référence dans le milieu. Après avoir exploré le chant, la production et la composition pendant les confinements, l'artiste sort, fin 2021, le EP Second Souffle, qui démontre la richesse de sa musique et sa polyvalence. Prisha nous parle aujourd'hui de la place des personnes sexisées, non-binaires et LGBT+, dans le beatbox, de la fameuse gifle de Will Smith et de la hiérarchisation des violences, et de l'accueil inégalitaire réservé aux réfugiés selon leur pays d'origine. Et même si elle se définit comme une artiste engagée, Prisha estime qu'il faut sans cesse travailler sur soi pour pouvoir se présenter comme telle. Bonjour Prisha.
Bonjour.
Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es, d'où tu viens, quel pronom on doit utiliser aussi ?
Je m'appelle Prisha, ça c'est mon nom d'artiste. Sinon, je m'appelle Inès. J'ai 25 ans, je suis franco-portugaise. Enfin, en vrai, je suis portugaise, mais ça fait un moment que je suis en France. Ça fait 10 ans. Du coup, on va dire que je suis franco-portugaise. Autrice, compositrice, beatboxeuse. Et voilà, mon pronom, c'est Yel, O-L. Les deux me vont très bien. Et je suis très contente d'être là.
Donc, on peut dire beatboxer ou beatboxeuse ?
Oui, tu peux dire beatboxer. Tu peux même dire beatboxer parce que ça dépend de comment tu l'écris. Si tu écris beatboxer en anglais, bah, il n'y a ni masculin ni de féminin. Moi, c'est ce que je fais beaucoup pour éviter toutes sortes d'ambiguïtés dans mon pronom et pour pas que les gens ils se mêlent des pinceaux. Et même pour parler de beatboxer, je mets directement à la forme anglaise. Comme ça, il n'y a pas trop de soucis, quoi.
Très bien, c'est noté. Tu l'as dit, tu es née à Porto, au Portugal. Tu es franco-portugaise. Dans quel type de milieu tu as grandi ?
Moi je suis née à Porto, donc dans le nord du Portugal, dans une petite ville qui s'appelle Valongo, qui est à quoi, 20 minutes de Porto, donc ça reste à côté d'une grande, grande ville, mais où la mentalité change déjà beaucoup, parce que c'est des gens, voilà, c'est un petit village, etc., etc., il n'y a pas beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent là-bas. Enfin, c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on est devenu très, 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 très touristique. Du coup, maintenant, il y a du monde là-bas aussi. Mais... Et je suis née dans une famille avec mon père, ma mère et mon frère qui a 14 ans, quand même de différence de moi. Voilà, une famille assez, comment on dit, honnête, milieu socioculturel normal. Et puis voilà, quoi.
Est-ce que la musique occupait une place importante dans ta famille ou est-ce que tu as reçu une éducation musicale ?
Alors, pas du tout. Je n'ai jamais eu d'éducation musicale. Il faut savoir que dans ma famille, j'ai un cousin qui fait un peu de musique et tout. Et mon frère, je pense que ça doit venir de là. Il a joué dans un groupe où lui aussi, il avait un peu appris la musique de manière autodidacte. Il avait commencé par la guitare. Il chantait aussi un petit peu, mais dans le groupe, il faisait essentiellement de chœur et surtout la guitare. Et je pense que depuis petite, le fait de le suivre de temps en temps, voir ses concerts avec mes parents, je pense que ça m'a inspirée. Et j'ai toujours eu cette fibre très artistique, mais j'ai jamais finalement fait de conservatoire. Il faut savoir qu'on parle quand même de Portugal et d'une période de grande crise où du coup, on n'y pense même pas à aller prendre des cours de musique payant, c'est juste hors question. Et en fait, je me suis juste dit que j'aimerais me lancer un jour. Enfin, j'avais 13 ans et je me suis dit, ce serait cool que, que je m'exprime par d'autres arts, quoi. Et du coup, j'ai demandé à mon père de récupérer une guitare que mon frère avait prêtée depuis longtemps, beaucoup, beaucoup d'années, à un ami à lui. Et du coup, voilà, mon père, il l'a récupérée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer mes premiers accords. J'ai commencé toute seule. Après, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube de rap, de beatbox. Je me suis dit, waouh, mais c'est quoi cette culture du hip-hop où on peut s'exprimer de manière aussi simple, efficace et aussi profonde aussi, parce que ça vient beaucoup des tripes dans l'hip-hop, je trouve. Et petit à petit, en fait, j'ai juste appris par moi-même, en passant beaucoup de temps aussi seule avec moi-même, quoi.
Tu nous avais raconté aussi quand on t'avait interviewé en 2020 que tu avais découvert le beatbox dans l'émission La Nouvelle Star au Portugal.
Oui, c'est très vrai. Exactement. C'est
Et
ouais, c'est fou. Oui.
est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as ressenti en voyant, donc, je crois que ça s'appelait Robinho, si je ne dis pas de bêtises.
Oui,
Voilà, qu'est-ce que tu as éprouvé en voyant cet artiste beatboxer pour la première fois?
oh, mais en fait, c'est fou parce que je pense que ça venait déjà de ma personnalité. Depuis petite, quand je voyais quelque chose que je comprenais pas, j'essayais de la faire. J'allais pas essayer d'apprendre, en fait. J'essayais de la faire moi-même. J'essayais juste d'apprendre en le faisant, en fait. Et de ce jour-là, j'étais, je pense, comme beaucoup de gens qui connaissent pas le beatbox. Quand on entend ça, à l'occurrence, un beatboxer qui va dans un concours de chant, un peu comme la Nouvelle Star en France, faire du beatbox, et qu'on connaît pas, et qu'on sait pas ce que c'est, et on entend ça, enfin, on est vachement surpris, quoi. Et moi, en plus, comme j'étais petite, bah, c'était quelque chose qui m'a vachement fascinée. J'ai trouvé ça fou de pouvoir à la fois chanter, beatboxer, donc produire des sons et faire de la musique avec sa bouche. Et je me suis dit, bon, bah, il a une bouche, j'ai une bouche, je vais tenter. Et en fait, ça a été tellement facile comme cheminement dans ma pensée que, voilà, quoi, j'étais tellement fascinée que pour moi, c'était important que je comprenne comment il l'a fait en testant avec ma propre bouche. Et j'ai commencé à créer mes propres rythmiques à moi, mais sans savoir trop ce que je faisais. Et puis du coup, à partir de là, j'ai commencé à regarder des vidéos aussi pour savoir, ok, qu'est-ce que je fais avec ma bouche? Ok, donc ça c'est un kick. Ok, ça c'est un head. Ok, donc ça, maintenant, il me faut une basse, il me faut une snare. Et petit à petit, j'ai commencé à un peu plus, on va dire, rentrer dans une approche un peu plus académique, on va dire, très légère, hein, mais où du coup, je comprenais un peu plus ce que je faisais. Et voilà quoi, enfin, vraiment ce mec il m'a fasciné. J'ai trop aimé son aisance. J'ai aimé comment, avec si peu de choses, avec juste un corps humain, on est capable de créer tant de choses en fait. On a tendance en tant qu'humain à vouloir tout construire pour construire quelque chose, pour créer quelque chose. Alors que déjà, rien que de notre corps, on a tellement de choses qu'on peut faire. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus fasciné à l'époque.
Après, tu as déménagé à Paris en 2012, mais tu es monté sur scène pour la première fois en 2017 dans le cadre des championnats de France de beatbox à La Place à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans? Est-ce que tu as continué à te perfectionner? Est-ce que tu as envisagé de faire du beatbox de manière vraiment sérieuse? Ou tout ça s'est un peu fait finalement au fil de la vie et du hasard?
Ça s'est beaucoup fait au fil de la vie et du hasard, je dirais. Il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est que j'ai jamais lâché la musique. Peu importe si c'était de la guitare, du chant, de l'écriture, de texte, du beatbox. J'ai toujours eu ce besoin important en moi de créer. Pas sans vraiment vouloir le montrer, en fait. C'était important pour moi, ça me faisait du bien. Mais le beatbox, j'ai jamais après évolué. Pour la petite histoire, il y a une snare en fait qu'on fait dans le beatbox qu'on utilise beaucoup. Et je voyais que des gars le faire en fait. Et je me disais que c'était si je l'avais pas en fait, je pouvais pas beatboxer. Et comme je l'avais pas, j'ai arrêté. J'ai eu vraiment le seum. Parce que j'étais ado, donc forcément, on lasse vite des choses, on découvre beaucoup trop de trucs en même temps. Et j'ai arrêté. Donc je suis restée au même niveau pendant des années. J'en faisais de temps en temps, je jamais avec des potes, surtout en France, du coup en 2012, comme tu disais, quand je suis arrivée. J'ai croisé des potes qui faisaient un peu aussi du beatbox au lycée, du coup, mais je faisais tout le temps la même chose. Par contre, rythmiquement parlant, j'ai un peu plus évolué parce que comme j'avais toujours les mêmes sons, pour inaugurer, j'allais dans la rythmique. Pour inaugurer, pour renouveler, oula, j'allais toujours dans la rythmique. Et bref, et du coup, J'ai jamais vraiment lâché, mais j'ai pas non plus investi dedans jusqu'à 2017. Parce que j'étais voilà, étudiante, je passais mon bac, à l'époque bac S. Après, j'ai fait la fac, j'étais en psychologie. Et c'était important pour moi d'aller le plus loin possible dans ces études, etc. Et du coup, j'ai vraiment pas investi plus dedans. Et c'est en 2017 que je commence à parler avec un beatboxer que j'ai déjà jamais vu en vrai en plus. C'était sur les réseaux qu'on parlait. Et lui, il avait déjà été champion en duo, parce qu'il y a la catégorie duo dans le beatbox. Il avait déjà été champion en duo en 2015 en France. Et un jour, il m'a envoyé un lien, comme ça. Il m'a juste envoyé un lien et il m'a dit. Il savait que je faisais un tout petit peu, il s'est dit, vas-y, tente. Et je regarde, et en fait, c'est un lien avec la candidature en fait, pour les championnats de France. Et il manquait 3 jours, quoi. Donc j'ai fait un peu à l'arrache et je ne pensais pas être prise. Et finalement, enfin, j'ai été prise parce qu'on est pratiquement toutes les femmes prises parce qu'il n'y a pas assez de femmes dedans. Et ça a commencé là, quoi. En fait, ça a commencé avec le championnat. Avant, je m'entraînais pas, je pensais pas que j'allais vraiment faire de la musique ma vie. J'étais vraiment en mode, ouais, je vais être psychologue, avoir mes études, être tranquille, quoi. Je pensais pas du tout à la musique.
Pourquoi tu as choisi le nom Prisha?
Bah, ça tombe bien que tu dises à ce moment-là, parce que bah, du coup, ça va avec l'histoire que je racontais, parce que du coup, bah, il manquait 3 jours. Entre le temps que tu te dises de le faire, ouais, vas-y, je le fais et je le fais pas, bah, t'arrives à la veille du truc et t'as toujours pas envoyé ta candidature, quoi. Et moi, je savais même pas composer du beatbox. Donc, je galérais à faire 2 minutes. Il fallait faire 2 minutes vidéo de candidature et remplir un formulaire. Donc, finalement, je le fais dernière minute et il reste, genre, je sais pas, 1 heure pour que ça se ferme les candidatures. Et là, il y a écrit Blaze d'artiste, nom d'artiste. Et là, je fais, mais quoi? Mais enfin, moi, je pensais pas qu'il y avait un nom d'artiste. Moi, c'est Inès, quoi. Et comme j'avais pas le temps, j'ai mis mon nom de gameuse, qui est le nom de Prisha, du coup, et que par la suite a pris sa symbolique, d'une part de la naissance de son existence, et d'une autre des valeurs qui apporte ma musique. Donc, il y a ce côté de. Quand je l'ai créé, en fait, je l'ai créé dans un jeu qui s'appelle WoW. Et en fait, on crée un avatar, que à l'occurrence, du coup, je l'ai appelé Prisha, que était dans le style guerrier. Et en fait, j'ai beaucoup gardé cette idée d'avatar, de guerrier, écouté un peu fantastique dans Prisha, parce qu'en fait, bah, c'est un peu celle que je suis finalement. Le côté avatar, je le prends dans le côté de transmettre un message dans le monde. Je trouve qu'en tant qu'individu, on peut tous le faire. Il faut juste trouver son moyen de le faire. Et moi, c'est la musique. Le guerrier, c'est ma manière de faire les choses, en fait. J'ai besoin de foncer tout le temps, j'ai besoin de tomber, d'avoir mal pour comprendre, pour revenir plus forte. Et voilà, ça a pris toute sa symbolique par la suite, quoi.
Comment tu définirais ton style de beatbox? Est-ce que déjà il y a des styles pour le beatbox? Est-ce qu'on peut parler de genre comme dans d'autres registres musicaux? Et ensuite, si c'est le cas, est-ce que toi tu te sens plus affilié à un genre qu'un autre?
Alors. Oui et non, on ne peut pas trop parler de genre parce qu'en fait, un beatbox, on fait vraiment tous les genres. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très drôle parce que depuis que je compose mes propres instrus et chants, j'arrive pas à me conditionner à un genre à cause de ça. Parce que dans le beatbox, on fait tous les genres en fait. Et c'est comme si le beatbox lui-même était un genre. Alors qu'en soi, c'est une discipline du hip-hop, c'est pas un genre. Mais pour nous, ça l'est presque. Et du coup, on fait un peu tout. Après, bien sûr, on a nos inspirations. Chaque artiste a ses inspirations, à sa propre bouche aussi, puisqu'on n'a pas tous la même bouche. Et du coup, on a tous plus ou moins un style, une signature dans notre style de beatbox. Et je pense que le mien, mon beatbox, il reste très électro quand même, très percussif. Ça, c'est en train de changer, c'est assez drôle. C'est très percussif, mais je suis en train d'aller de plus en plus vers la mélodie, ce qui me fait un peu rire, parce que je ne m'y attendais pas du tout à faire ça. Et très scénique. Je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, c'était pas le cas à l'époque, mais il y a des années en avant. Aujourd'hui, en fait, il y a le beatbox, il y a un style de beatbox très numérique parce que depuis le Covid, en fait, il y a eu énormément de battles en ligne, il y a eu beaucoup de vidéos de beatbox en fait qui ont été faites. Et du coup, il y a tout un beatbox en fait fait pour le studio, etc. Qui sonnent beaux aux oreilles et tout. Il y a des beatboxers qui sont très forts dans ce genre de battle ou ce genre de composition en vidéo, du coup. Et il y en a qui sont plus forts en live. C'est du beatbox vraiment live, fait pour sonner sur le système son. Par exemple, si, pour donner un exemple un peu plus facile, par exemple, enfin, si je te fais un... Il va sonner incroyable sur scène. Par contre, en vidéo, il va falloir vraiment que je le fasse hyper bien, peut-être aller le dessiner un peu, que je joue là-dessus pour que ça sorte vraiment bien dans le numérique. Du coup, c'est pour ça que je dis que mon beatbox est plus scénique parce que il n'est pas du tout fait pour des vidéos, pour le
Ça rend
coup.
bien, ouais, quand même.
Ça
Déjà, ça va. Écoute, on va écouter tout de suite ton titre Océan. Alors sur ce morceau, tu as tout fait, le beatbox, la compo, le piano, c'est bien ça?
C'est ça. Ouais.
Est-ce que ben, tu as été autodidacte dans toutes ces disciplines-là, ou il y a quand même des endroits où tu as été formé ou épaulé, accompagné par des gens?
Non, j'ai toujours été dans l'autodidacte. Après, tout, un, deux, trois, tout autodidacte, il s'entoure en fait de gens et il fait écouter, il apprend par le partage avec les gens et ça aide beaucoup. Donc j'ai toujours été entourée, j'ai toujours demandé beaucoup de conseils, j'ai toujours été intéressée à comprendre comment faire de nouvelles choses et c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer en tant qu'artiste autodidacte. Mais non, j'ai jamais, enfin, il y a que le chant, j'ai pris 5 cours, mais c'est tout, quoi.
Est-ce que tu as des processus particuliers de création, des recettes ou des méthodes particulières pour composer un morceau?
Ouh, ça, c'est une vraie question, ça. Ça, c'est de la démarche artistique, ça. Je réfléchis, c'est une vraie question. Alors, si j'ai des méthodes pratiques, enfin des méthodes spécifiques pour composer et si je conseille certaines manières de composer, c'est ça. Hein.
Oui, pas forcément si tu conseilles, si toi, tu as des recettes à toi qui
Ah, les
fonctionnent pour
recettes.
composer un morceau, quoi, ou un processus de création particulier qui t'est propre.
Bah, ça. C'est dur parce qu'en fait, j'ai beaucoup de manières de composer, en fait. C'est assez vaste. Il y a juste une chose pour moi qui est hyper importante, que je découvre de plus en plus avec le temps, c'est que je suis obligée, et ça paraît hyper clair, ça paraît hyper normal ce que je vais dire, et obvious pour tout le monde, mais ça l'est pas en tant qu'artiste, je vous jure, ça l'est pas. C'est le fait de vraiment ne pas m'imposer une seule barrière quand je compose, ne pas me focaliser sur la technique dès le départ, et penser vraiment au côté un peu plus inspiration, émotion. Pour vraiment ne pas quitter cet état de flow. C'est-à-dire que pour moi, le plus important au début, c'est vraiment de présenter un maximum l'intention de la chanson que je suis en train de faire. Et après, je vais aller la sculpter. Après, oui, je vais venir sur l'aspect technique. Je vais venir sur aussi la manière d'homogénéiser un peu plus dans mon projet à moi le morceau qui s'intègre assez bien dans mon projet. Etc., etc. Donc ça viendra après. Pour moi, c'est hyper important de commencer comme ça et souvent ce que je fais, un peu moins maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un instrument acoustique et souvent c'est le piano pour construire pour créer les premières notes. Donc peut-être qu'après, en fait, ce piano, il sera plus dans la prod. Hein. Ça se trouve, il va être, comment dire? Il va être remplacé par un autre instrument en fait virtuel ou acoustique que finalement trouvera plus sa place là-dedans dans le sound design, dans la texture, etc. Et puis pour la partie écrite, ça va dépendre. Peut-être que je vais genre composer et là je vais me dire tiens, il faut de la voix et du coup je commence à écrire ce qui m'inspire ce morceau, l'émotion et la raison pourquoi je l'ai créé aussi et du coup je vais commencer à écrire en même temps que je crée le morceau. Soit j'ai des textes en amont et je vais me dire oh trop cool en fait ce texte il trouve vachement sa place je vais l'utiliser celui-là soit je vais me dire carrément oh mais tu sais quoi mais celui-là ce qui va bien c'est du beatbox en fait j'ai pas du tout besoin de chant là-dessus et ça part sur du beatbox prod par exemple donc voilà
Est-ce que c'est toi aussi qui gères le mixage et le mastering?
alors non je fais de la, du ma je fais la maquette je fais du on va dire du pré-mixage, on va dire, mais c'est mes ingé sons qui s'en chargent vraiment de faire le mixage et le mastering, parce que j'estime pas avoir ce niveau-là pour. Donc c'est Pierre qui est à Nice qui s'en charge du mixage, et puis Edouard qui s'en charge, Mastered by Edouard qui s'en charge de la partie mastering.
Est-ce que tu aimes bien travailler tout le temps avec les mêmes personnes, avoir une équipe fidèle à ce niveau-là?
Oui, c'est hyper important pour moi d'avoir une équipe solide surtout. Et comme je suis arrivée en France assez tard et que j'ai pas du tout été cette personne que dès le départ savait qu'elle allait faire de la musique et qui était dans ce milieu-là et qui connaissait des gens dans ce milieu et tout, bah c'est hyper important pour moi de là dans les années qui se passent là à l'instant. De vraiment souder de plus mon équipe, de plus en plus mon équipe, de trouver de plus en plus les membres qu'il me faut, les gens qu'il me faut, m'entourer des bonnes personnes pour plus tard, qu'on espère ça marche en fait. Donc voilà, c'est hyper important pour moi d'avoir une équipe qui est solide, qui est fixe et qui évolue aussi en même temps que moi j'évolue.
En 2019, tu es devenue la première femme en France à gagner une compétition mixte de beatbox. Et en 2020, tu as remporté le titre de championne de France en catégorie solo. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, ces récompenses? Est-ce que ta vie d'artiste en a été transformée?
Oui et non, hein. On va se dire la vérité, on parle de beatbox. Donc, gagner un. C'est en fait, c'est comme être champion de la pétanque, comme être champion des genres de je sais pas, de foot, tu vois. Genre, c'est pas la même discipline, tu vois. Et nous, encore, on est pire que la pétanque, tu vois. On passe même pas à la télé. Non, mais c'est un peu fait.
Mais pourquoi? C'est quoi cette comparaison? Ça veut dire quoi pour toi?
Bah, en fait, malheureusement, je trouve qu'il y a. Malheureusement, et c'est normal, hein, il n'y a même pas à dire malheureusement, on est des humains, c'est normal. On met de la priorité sur certaines disciplines, en fait, certaines pratiques. On va se dire la vérité, le foot est beaucoup plus vu que, je sais pas, qu'un match de. Je sais pas, j'ai. Il me faut une idée là. Par exemple, en France, le hockey, il n'est pas aussi vu
Ouais.
que le foot, par exemple.
Ouais.
Et ça va changer beaucoup, parce que du coup, il y a moins de gens qui regardent, donc il y a moins de gens qui investissent. Donc derrière, l'importance n'est pas la même, parce qu'il y a moins de gens, il y a moins d'investissements, etc. Émotionnellement parlant, l'importance de gagner quelque chose va être la même. On est d'accord. Dans la
OK.
compétition, l'importance va être la même. Mais niveau réputation, ça va pas être pareil. C'est-à-dire que en tant que beatboxeuse, si je gagne un championnat de France, c'est pas comme si dans le foot je gagne un gros championnat, quoi. Je vais pas apparaître dans la une partout, tu vois, la une partout, etc. Tu vois. Donc c'est une discipline qui est assez jeune en plus. C'est une discipline qui a pas encore énormément de reconnaissance, je trouve encore. Les gens, ils la connaissent pas en fait assez bien encore cette discipline comme il se doit, parce qu'en vrai, ça mérite plus de reconnaissance et ça fait que du coup, bah, tu gagnes des choses dans le fait que c'est beau pour le CV, c'est bien pour te dire, ok, dans ta réputation du milieu, bah, tu as été championne de France, ça c'est vraiment trop cool. Et dans le côté un peu plus compétition, en fait, ça. Et puis ça te permet d'avoir plus de scènes parce que du coup bah, ça te permet d'avoir de l'expérience derrière que tu peux parler en fait de ça au spectacle, aux scènes avec qui tu veux travailler, etc. Les gens ils savent que t'es pas arrivé hier et que tu t'es mise parce que tu as voulu mais que tu sais pas encore ce que tu fous. Donc ça donne de la crédibilité, on va dire. Mais pour moi, je pense que ce qui te fait le plus gagner. Enfin, pour moi, tout ça a été des bonus, si tu veux. Moi, je voulais pas être championne de France pour ça. Moi, je voulais être championne de France parce que je suis une sportive. Le beatbox, c'est un sport aussi. Je suis une compétitrice. J'avais envie de montrer le meilleur de moi-même, d'aller jusqu'au-delà de mes limites et de sentir ce que c'est émotionnellement dans un gros championnat de France. Parce qu'en plus, c'est genre un des plus gros championnats du monde niveau national. Enfin, c'est vraiment, on est un pays qui a beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent et tout. Et du coup, c'est un vrai truc, quoi. Je voulais savoir ce que c'est ressentir d'avoir ma main qui se lève à la toute fin en disant championne de France. Enfin, parce que je suis une compétitrice, donc j'ai envie d'aller jusqu'à là, quoi. Et je pense que ça, pour moi, c'était suffisant. Tout le reste, après, c'était des bonus, en fait.
Et tu dis, enfin, tout à l'heure, tu parlais du fait que ton beatbox était plus scénique que numérique. Est-ce que du coup aussi ces compétitions-là, ça te permet de parfaire ton beatbox, tout simplement ta technique? Est-ce qu'au-delà de la compétition, t'es pas aussi en train de t'entraîner quelque part?
Clairement,
Ouais.
clairement. Moi, je trouve que où je me suis le plus formée dans la musique, c'est dans le beatbox. Hein. Si, par exemple, rien pour les prods, je ne savais pas faire des prods. Hein. Je me suis lancée comme ça. Et en fait, si aujourd'hui je sais faire des prods, c'est juste parce qu'avant, je composais avec ma bouche déjà. Donc, en fait, ça m'avait déjà appris beaucoup. Et puis, la présence scénique que le beatbox t'apporte est juste énorme. Déjà, il faut pas oublier que tu produis des sons avec ton propre corps. Donc, ça veut dire ton corps avec lequel tu vas faire des mouvements, il produit déjà des sons. Donc déjà, il y a le cardio à gérer. Et puis à côté, ça t'apporte quand même déjà une présence scénique qui est très naturelle parce que ta main va beaucoup s'exprimer, ton corps va s'exprimer parce que les vibrations sortent de ton corps. Donc il a envie de s'exprimer. Un peu comme un chanteur quand il chante, il y a ce truc de le visage, il va bouger, il va danser avec son chant presque. Donc, le beatbox, je vis pas pour le battle. Pour moi, il y a l'artistique et il y a le battle. Et je pense que c'est important d'avoir les deux. Et les deux sont complémentaires. Le battle, il va beaucoup nous apprendre, beaucoup nous donner d'expérience et aussi nous permettre de ne pas stagner pour pouvoir avancer encore plus davantage dans l'artistique. Et puis l'artistique, il va nous rappeler aussi de savoir regarder la musique d'une autre manière, pas juste d'un côté de compétition, de technique, de théorie et tout. Enfin, l'artistique, il y a aussi ce côté de lâcher prise, il y a le côté d'état de flow, de juste raconter l'histoire que tu as envie de raconter de la manière que tu veux raconter, quoi. Donc, pour moi, les deux, ils sont complémentaires et je remercierai toujours tous les battles que j'ai faits pour ça, quoi.
Est-ce qu'une fois qu'on a remporté des titres comme ça, qu'on est championne de France, en solo, etc., est-ce qu'on a envie d'aller encore plus loin ou il y a un moment où ça s'arrête et on se contente de ce qu'on a déjà?
Je pense que ça dépend du mental des gens. Quand je dis mental, je veux pas dire de force mentale ni rien, parce que ça veut rien dire. Pour moi, ça n'existe pas. C'est plus qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à où était ton objectif? Quelle est ton ambition d'après? Par rapport à ta situation de vie, par rapport à ce que tu veux, etc. Moi, quand j'ai été championne, je savais que c'était que le début. Pourtant, j'ai stagné. Après, il faut pas oublier, j'étais championne et 3 semaines après, un truc du genre, on a été enfermés avec le Covid. Le Covid a commencé, en fait. Et je pense que ça m'a... Enfin, c'était pas évident pour moi, quoi, de me retrouver enfin avec ce titre. Et là, y a la fin du monde qui arrive, quoi. Du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu stagné au début. Il y a aussi ce truc de... C'est horrible à dire, mais... En fait, les mecs, ils sont tellement plus nombreux. Que les personnes, que les femmes et les personnes LGBT, donc personnes non binaires, etc. Ils sont tellement plus nombreux qu'en fait, ils ont plus de chances d'aller à d'autres présentations internationales, etc. Et moi, je me suis pas sentie légitime au début quand j'ai gagné mon titre championne de France. C'est triste, mais j'avais l'impression d'être championne de France de la catégorie B. C'est triste en fait, mais c'est comme ça que je me suis sentie. En fait, normalement, quand on est champion de France, après on va à l'international, international mixte souvent. Et là, ça y est, ça va être quelque chose de fou, etc. Et en fait, moi, je ne me suis pas sentie légitime d'aller là, même si je voulais. Et du coup, au début, j'ai stagné, mais je me suis déconstruite sur ces idées-là. J'ai parlé à moi-même. J'ai continué de m'entraîner. J'ai essayé de faire la part des choses, de pas tout mélanger, etc. Et finalement, j'ai retrouvé à nouveau la soif d'aller plus loin dans le battle en international. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai gagné, j'étais plus en mode, je sais qu'il y a une suite. J'ai envie d'y aller, mais je me sens pas légitime. Du coup, je vais attendre. Je vais arrêter un peu. Et je vais faire une pause du battle et je vais aller composer. Juste des prods, du chant et tout. Je vais aller allier mes différentes passions. Mais aussi parce que c'était un objectif qu'à l'époque, j'avais envie de le faire aussi, en fait, je pense. Donc ouais, ça s'arrête pas là. Ça continue. Mais ça va dépendre de l'esprit et des envies de chacun, en fait.
C'est une transition parfaite pour écouter ton second titre, Poison, qui est extrait de ton premier EP, Second Souffle.
To do, who am I without you? I just want to let it go, feel the flame that makes me glow. Was our love
espérant que tout ira bien.
So let me tell you, our bodies will never merge again. It's hard to love you. Your poison was getting in my head.
Alors, je t'avoue que la première fois que j'ai écouté ce morceau, j'étais un peu surprise. Je me suis dit, mais qui c'est qui chante? Est-ce que c'est elle ou pas? Sonorité un peu pop, électro. Je me suis dit, mais tiens, ça se trouve, c'est pas Prisha beatboxer, c'est Prisha autre chose. Puis il y avait des passages un peu rap ou en tout cas un peu plus slamé ou parlé aussi. Donc, j'étais un peu surprise et j'étais vraiment assez scotchée même par ta voix et tout. Et je me suis dit que nous avait caché ses talents de songwriter. et de chanteur-chanteuse, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es enfermée pendant le confinement, comme tu disais, pour nous concocter tout ça? Est-ce que c'est des, on va dire, des skills que tu avais déjà avant? Comment ça s'est passé tout ça?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Il faut savoir que déjà, la musique, j'ai commencé par la guitare et par l'écriture. Moi, quand j'étais au Portugal, j'écrivais jamais encore fini. Je pense que ça va prendre encore des années, mais j'écrivais de la poésie et je voulais créer mon propre bouquin. Donc, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé composer. Bah, à l'époque, c'était à la guitare. Et je rappais en portugais, j'ai toujours rappé en portugais, en improvisation surtout, et j'adore ça, quoi. Mais quand je me suis retrouvée à faire les championnats de France en 2017, c'est allé très vite pour moi dans le beatbox. Et en fait, j'ai profité de la vague et... Et je pense que j'ai aussi oublié cette partie de moi. J'étais tellement dedans, j'étais tellement waouh, pour la première fois, les gens, ils croient en moi, j'ai réussi à aller loin, je vais aller encore plus loin, j'en suis sûre, parce que je vais me donner à fond. Les gens, ils croient en moi dans la communauté du beatbox et tout. Et en fait, c'était très tentant. Et en fait, je suis juste allée. Et par contre, j'ai totalement oublié l'autre partie de moi, parce que du coup, c'était la partie compétition que je mettais en place et que la partie beatbox, du coup. Mais la partie vulnérable, sensible et plus chantée, plus mélodique et composition autre que du beatbox, bah, j'ai totalement oublié, quoi. J'ai même arrêté pratiquement de jouer de la guitare. Et c'est grâce à mon manager, Johan, qui, après avoir le titre, en fait, c'est ce que je disais aussi, c'est que j'avais d'autres objectifs en tête. Et ça, c'est grâce à lui, parce qu'en fait, on s'est posé. Il m'a dit, bon, c'est quoi maintenant la suite? Et je le regarde, on parle, etc., on en discute, et il me dit, ce serait cool que tu fasses un EP au bout d'un moment. Et j'ai ri, parce que, enfin, il m'a vraiment fait tilter que j'avais totalement oublié cette partie-là de la musique. Rien que sortir un single, un EP, enfin, j'avais totalement oublié. J'étais à fond dans la scène et dans les compètes. Et je me suis dit, bah, c'est le meilleur moment de remettre en lumière l'Inès d'avant. L'Inès sensible, vulnérable, qui a envie de chanter, qui a envie de composer et remettre un peu à jour toutes ces passions que du coup personne n'a connues, puisque les gens ils m'ont connue par le beatbox. Mais moi je connaissais. Et après, j'avais pas. Bah, ça faisait des années que j'avais délaissé ça, je le faisais quand j'étais plus jeune. Et du coup, il a fallu que je me réentraîne. Donc c'est pour ça que j'ai pris quelques cours de chant. J'ai pris énormément de temps pour composer trois morceaux. Le troisième qui arrive bientôt, parce que bah, je me remettais un peu dans le bain, quoi, et je me recherchais à nouveau, quoi. Mais voilà, donc il y avait déjà un peu de skills qui étaient là, mais qui ont quand même eu besoin d'être remises à jour et que je pense qu'ils ont encore besoin d'évoluer. Je n'ai pas les mêmes skills dans tout ça que j'ai dans le beatbox, parce que les dernières années, je me suis consacrée qu'au beatbox, donc forcément.
Est-ce que le fait aussi de mêler comme ça des instruments, de la mélodie, c'est pas un moyen de démocratiser aussi le beatbox, peut-être de toucher un public qui pourrait pas, pour être honnête, écouter un EP entier de beatbox, mais qui peut tout à fait écouter un EP où il y a du beatbox et aussi d'autres styles musicaux?
Ah mais clairement, clairement, on avait parlé en plus à la, table ronde de...
Oui, carrément.
Et je disais qu'en effet, enfin moi c'est une bonne manière de, représenter le beatbox, je trouve. Chacun trouvera sa manière. Hein. On peut très bien être juste et que, et c'est suffisant parce que ça suffit. En fait, c'est comme un rappeur, il est juste rappeur. Ça lui suffit, il n'a pas besoin de mille et une casquettes. Bah, le beatboxer, c'est pareil, il y en a qui font que ça, que du beatbox, et c'est plus que OK. Et en fait, ils arrivent à trouver leur manière de mettre en lumière le beatbox par des vidéos entertainment ou alors, exemple, Berry Wham qui ont fait des premières parties Big Flo Early, qui se sont retrouvés à faire des grosses code scènes ces derniers temps, ou même des compétiteurs qui finalement trouvent leur milieu dans la compétition en allant de plus en plus loin dans les titres. Mais moi, c'était pas ma manière à moi, en fait. C'était pas ça. C'était pas là où j'allais apporter quelque chose au beatbox. Moi, je trouve que c'était vraiment le fait de mélanger à mes autres arts. Et quand j'ai compris ça avec Ocean, parce que du coup, t'as écouté Poison, et Poison, il y a zéro beatbox. Je trouvais pas la place du beatbox là-dedans, et je me suis dit, bon, je me prends la tête. Dans tous les cas, tu fais plusieurs choses, ça va pas dire que chaque morceau doit avoir toutes les choses que tu fais, en fait. Donc, c'est pas grave, fais sans. Et Ocean, ça a été l'inverse. Enfin, ça... Je voyais pas de chant dans ce que je faisais. J'étais en mode, mais je vais pas mettre du beatbox, si. Et là, je commence à freestyle et je me dis, mais waouh, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait. J'aime trop beatboxer dans mes instrumentaux, avec mes instrumentaux, jouer avec d'autres instruments, avec mon beatbox. Et je pense que c'est ma manière à moi de mettre en lumière, en fait, le beatbox, je pense.
Alors juste petite précision, parce que moi j'ai dit océan et poison, mais donc c'est ocean et poison, quoi, c'est en anglais.
J'avoue, mais c'est moi aussi, j'ai... Alors, c'est un peu... avec comment dire, on s'est dit, c'est dommage de ne pas mettre des titres en français. Et en fait, en déconnant, du coup, en tout cas, c'est deux titres, le troisième ne sera pas le cas. On a mis un peu des titres, en fait, qui sont pareils dans différentes langues.
Okay.
Enfin, qui ne changent pas trop. Enfin, et au pire, en tout cas, enfin, bien sûr, dans les langues latines, etc., qui viennent du latin, je veux dire latin, dans les langues qui viennent du latin, etc., qui ça reste un peu pareil, quoi. Donc, surtout l'anglais et le français, quoi.
Et tout ouais. À l'heure, tu disais que tu rappais, t'adorais rapper en portugais, et là, il y a des mélanges aussi entre l'anglais et le français. Est-ce que tu sais en avance quelle langue tu vas avoir envie de choisir selon ce que tu vas faire, ou c'est quelque chose qui s'impose un peu à toi, qui te surprend même parfois, peut-être?
Je pense que tu touches à un très bon point, enfin une très bonne question, parce que en ce moment, c'est pas que en ce moment, ça m'arrive souvent, mais je sais que ma force, c'est le fait de pouvoir faire, comment dire, je sais que ma force, c'est le fait de pouvoir être polyvalente. C'est ça que j'aime. C'est le fait de ne pas m'instaurer de limites ni de frontières dans ce que je fais. Mais par contre, il y a aussi un défaut et un danger là-dedans, c'est que je parle plusieurs langues et j'ai envie de m'exprimer en plusieurs langues. Et je fais plusieurs genres, tout ce qui me passe par la tête, j'ai envie de le faire, je le lance. Et en fait, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, bah, c'est compliqué puisqu'il faut s'homogénéiser au bout d'un moment pour créer vraiment son image, etc., pour sa musique. Et du coup, c'est vraiment... pour l'instant, je n'arrive pas à choisir... la langue dans laquelle j'aimerais parler que cette langue dans le futur, et je pense même pas que je le ferai, en fait. Je pense que là, ma vraie question, c'est comment, dans cette hétérogénéité, trouver ma propre homogénéité, comment homogénéiser tout ça, en fait, sans vraiment devoir enlever, en fait, un bout de moi, parce qu'en fait, si j'enlève le français, c'est enlever un bout de moi. Si j'enlève l'anglais, c'est enlever un bout de moi. Si j'ai commencé à chanter en anglais, enlever du portugais, bah j'écris toujours en portugais, c'est mon origine, c'est un bout de moi. Enfin, enlever le beatbox, c'est enlever une partie de mon histoire. En fait, je peux pas juste effacer quelque chose juste pour que ça devienne plus homogène. Donc il faut trouver une autre manière, en fait, d'homogénéiser mon propre projet, et ça, c'est les questions que je me pose en ce moment. Donc je pense pas que je choisirais, mais je trouverai une solution pour que ça passe un peu mieux.
de passer à la deuxième partie de cet entretien où tu as choisi trois thèmes plus ou moins d'actualité ou qui te tiennent à cœur, dont tu avais envie de parler. Et le premier thème, c'est la mort de deux graffeurs dans le métro new-yorkais alors qu'ils allaient taguer le 20 avril dernier. En fait, il y a deux street artistes toulousains qui s'appellent Pierre Audebert et Julien Blanc, enfin qui s'appelaient du coup, qui sont morts après avoir été heurtés par un métro à Brooklyn. Pourquoi tu as eu envie de parler de ce sujet-là?
En fait, déjà sur les trois sujets, ce que je veux trop parler, c'est surtout de qu'on se pose des questions, en fait. C'est ça pour moi le plus important, avant tout. Et la question, en fait, que ça m'a apporté, en fait, ce sujet, c'est jusqu'à où nous sommes prêts, finalement, à aller pour notre passion. Et où sont les limites, en fait, de notre passion. Dans ce cas, du coup, d'enlever une vie. Donc... ouais, c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet. Il y avait le fait, en fait, de savoir, ok, qu'est-ce qui, enfin, il faut savoir que dans le graffiti, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté transgression de la loi qui existe. Genre, il fait partie de la culture en soi, presque. Et presque, enfin, il fait partie. Et puis à côté, il y a le fait que petit à petit, en fait, ça se légalise de plus en plus. Déjà, ça a été reconnu comme un art. C'est le street art, en fait, ça s'appelle maintenant. Ça commence à devenir un peu plus accepté par la société, même si pour moi, ça aurait toujours dû être accepté. Et en fait, c'est justement voir jusqu'à où... Enfin, c'est vraiment se poser les questions. Est-ce que j'ai envie de faire mon art et de le faire sans qu'il y ait des préjudices sur ma vie aux autres ou est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à ou est-ce que j'ai envie de représenter la culture de l'histoire de mon art et dans ce cas de mettre ma vie en danger carrément. Enfin, je pense que il y avait toutes ces questions là que je me posais avec ça et je trouvais ça hyper intéressant, à laquelle j'ai pas de réponse bien évidemment, mais
oui, ce que j'allais te demander, j'allais te dire, est-ce que toi tu as la réponse à la question te concernant?
Alors, me concernant moi, oui, mais pas concernant les gens, parce que fin, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse pour tout ça, en fait? C'est ça qui est difficile, mais pour moi, vraiment, il y a vraiment, dans les trois sujets, il y a un débat pour, il y a du débat pour une journée entière. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, c'est quand ça pose des questions, c'est que le sujet, il est là, quoi. Mais moi, je sais que je préfère faire mon art, ma passion, tout court. Je n'ai pas besoin de mettre en jeu ma vie pour... Mais ça ne va pas dire que je suis comme ça, que je juge l'autre qui fait l'inverse, parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs dans notre tête, en fait. Mais je sais que... Enfin, après, c'est très vaste, hein. Parce que ça dépend, hein. Tu mets ta vie en jeu, mais dans quel contexte? Dans quel contexte? Il y a tout ça qui se met en jeu aussi. Enfin, c'est dur, hein. Mais voilà.
J'avais l'impression de sacrifier beaucoup de choses, d'avoir dû sacrifier beaucoup de choses pour avoir cette carrière, entre guillemets, de beatboxer ou d'artiste.
Ouais, je pense. Oui, je pense. Bah, on va dire la vérité, déjà, j'ai sacrifié une vie, on va dire, confort. Conformiste aussi, mais confort. Où je savais, moi j'étais étudiante, j'avais fait un stage en Jamaïque. Il m'avait pris mon hume, il voulait que j'aille après, en fait, là-bas, quoi. Et genre, je savais que j'avais un futur safe, en fait. Faisais mon travail, je revenais à la maison et c'est bon. Je pense que c'est des sacrifices qu'il faut faire pour ta passion, mais je regrette toujours pas mon choix. Je pense pas regretter un jour. Je pense que j'aurais regretté, par contre, de ne pas avoir essayé. Mais c'est des sacrifices. Je sais que tous les jours, maintenant, je vais me lever et je vais devoir chercher mon propre travail, que je vais avoir beaucoup de moments d'instabilité. C'est une vie instable. Être un artiste, c'est une vie très instable. Et même quand on trouve notre sécurité financièrement parlant, imaginons dans la musique, ça reste instable. En fait, on se met à nu tout le temps. Rien que ça. Nous, notre boulot, c'est de s'exprimer à nu dans des chansons et que les gens nous écoutent et qu'ils fassent leur propre idée dessus. C'est pas aussi évident. Donc, en fait, je pense que rien que ce côté de sécurité, confort, etc., bah, c'est un gros sacrifice qu'on fait finalement, tu vois. Qui va aussi changer beaucoup de choses pour le bon aussi, dans ta vision de voir la vie. Parce que du coup, tu la savoures encore plus. Et voilà, je pense que déjà, il y a ce sacrifice-là qui est présent, je pense, dans ma tête.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire arrêter, tu penses? Parce que tu parlais de limites à l'exercice ou à la pratique de ton art.
Je suis très têtue pour ça, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde. Si au bout d'un moment je suis trop dans un milieu de requins, que je vois des gens qui essaient de profiter de moi, de ma musique, enfin, c'est pas le... enfin, ça nous arrive à tous, hein, mais c'est pas encore le cas, tu vois, aujourd'hui. Enfin, pas à ce point, mais on sait que ça arrive beaucoup, surtout quand on fait partie des minorités sociales, etc. Ça arrive encore plus, il y a pas mal d'injustices dans ce milieu. C'est un milieu très dur. Et je pense que la seule chose qui pourrait me faire arrêter, c'est si à un moment, il y a quelque chose, je sais pas, un comportement qui va vraiment très loin, qui dégrade mon image, ou que juste moi, j'ai un surplus de ça. Parce que je pense que il y a des gens qui arrivent à bien gérer ça, mais je pense que enfin, moi je veux vraiment garder cette pureté. Ouais, voilà, c'est ça. Si je vois qu'au bout d'un moment, ce surplus-là de mauvais comportements envers moi et de dégradation autre arrive, si ça arrive, et qui risque d'enlever ma pureté dans le milieu, c'est-à-dire que je devienne comme ces gens-là, bah là, je pense que je pourrais arrêter.
On va écouter tout de suite le troisième titre que tu as choisi de diffuser, qui est un battle avec la beatboxeuse Giulietta. Donc, comme je viens de le dire, elle est également beatboxeuse, également championne de France de Human Beatbox aussi en 2018 et vice-championne 2020. Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux et peut-être aussi nous dire quels sont les rapports entre beatboxeurs LGBT et beatboxeuses dans ce milieu-là? Parce qu'on a l'impression que c'est une grande famille et que du coup, dès qu'on n'est pas un mec blanc cisgenre, on est forcément solidaire avec les autres. C'est l'impression de l'extérieur, mais peut-être c'est faux, donc c'est pour ça que je te pose la question.
Oh. Alors, bah déjà j'ai rencontré Julieta parce qu'en fait dans le cadre des ateliers Feel My Beat, qui étaient des ateliers faits pour les femmes à l'époque, personnes LGBT, donc non mixte avec des hommes cisgenres. Chose que je fais plus maintenant par choix, la non-mixité, enfin, ça dépendrait maintenant, mais enfin, je pense que je sais pas, enfin, je verrai, mais bref, je me perds. Mais du coup, ça a été un atelier lancé par une association féministe et mon association, donc Panam Beatbox Hustlers, et je pense même une autre asso en même temps, et c'était au centre culturel de Porte-Pantin. Et en fait, moi, j'avais été l'année d'avant en tant qu'intervenante juste pour partager mon expérience avec les filles. Donc, c'était en 2017, quoi. Je venais d'avoir le titre, j'étais toute jeune, je venais de commencer le truc, quoi. Je venais de rentrer dans l'asso aussi. Et en fait, finalement, ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont demandé de venir tout le temps. C'était du bénévolat, hein. De venir tout le temps, tous les samedis, du coup, aider à faire le cours, quoi. Et je suis venue, j'ai trop aimé en fait. C'était mon premier partage pédagogique. Et du coup, en 2018, les intervenants ont changé et ils voulaient que ce soit une beatboxeuse que je ne connaissais pas encore et qu'ils venaient de rencontrer aussi, parce qu'elle n'était pas encore dans le game de la compétition. Et moi, qui gérant du coup la suite des ateliers, donc de beatbox et d'écriture. Et du coup, bah, c'est là que j'ai rencontré du coup Julieta. On s'est vu dans ce cadre-là. Et Julieta qui faisait déjà depuis, je pense, 10 ans, un truc du genre du beatbox, des scènes et tout, mais en fait, que du côté artistique, en fait. Donc, elle s'entraînait pas pour des battles ni rien. Donc, bah, c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est très bien entendus. Après, on a parlé de championnat. Elle avait déjà... Enfin, déjà, il y a des gens de l'asso qui l'avaient déjà chauffée à faire des championnats de France parce qu'elle avait un très bon niveau. Et moi, pareil, je lui ai dit, mais vas-y, meuf, viens, on fait les champs de France ensemble, tu vois. Enfin, il faut représenter, on n'est pas beaucoup et tout. Et je l'ai même dit, viens, il y a le mondial et tout qui va se passer, viens et tout. J'essaie de te trouver une chambre avec les filles et tout. Comme ça, tu es avec des gens que tu connais quand même un petit peu. Et elle est venue, elle a kiffé et s'est lancée dans les championnats. Et dès le premier championnat, elle a été championne de France. Elle a défoncé tout le monde. Donc voilà comment on s'est rencontrés. C'était assez fou. Puis par la suite, on a fait beaucoup, beaucoup de collaborations. On est dans un groupe ensemble qui s'appelle Olala, etc., etc. Et puis oui, dans ce milieu, on est très solidaires. Dans la catégorie, alors, sais pas comment je l'aurais appelée cette catégorie, mais du coup, je vais dire. Juste le fait. Dans la catégorie femmes, on est très, très, très gentilles et soutenantes et on s'encourage vraiment beaucoup parce que bah, on n'est pas beaucoup et qu'on a envie de se représenter, quoi. Genre, on aime ce qu'on fait et on a envie qu'il y ait de plus en plus de femmes ou de personnes LGBT qui viennent, quoi, dans le game. Donc, ça, c'est sûr. Puis, dans la catégorie mec, bah, je pense que dans tous les milieux, je ne vais pas mentir, il y a des gens qui soutiennent énormément, vraiment. Et puis, il y a des gens qui sont un peu plus... Voilà, quoi. Voilà, mais ces gens-là, ils me font ni chaud ni froid.
Est-ce qu'il y a beaucoup de beatboxeurs, beatboxeuses queer, LGBT+, enfin notamment trans, je me disais, enfin moi j'en connais pas du tout, donc je me demandais s'ils étaient nombreux, nombreuses.
Alors, de plus en plus, mais c'est rien. Déjà, juste les femmes cis, on est très peu. Et personnes LGBT, on est encore moins. Donc, pour donner un exemple, je pense qu'alors, en non-binaire, je pense qu'on est max 2, je pense. Ou alors, je suis solo, je sais plus. Et en personne ayant eu une transition de genre, au plus, je crois qu'on est 2. Il y en a forcément, tu vois, mais en
D'accord.
France, on n'est pas beaucoup, tu vois. Genre là, je
OK.
parlais surtout en France, parce que c'est là où je connais le mieux, bien sûr. Mais t'as Raven, du coup, qu'avant faisait les catégories hommes et que maintenant est dans les catégories femmes. Et t'as Willy, qui est resté encore dans les catégories femmes, je crois. Et qui est encore en transition, je crois, si je me trompe pas. Puis je crois que chez les hommes, il y a un non-binaire. Enfin, chez les hommes, quand je dis chez les hommes, c'est les deux catégories, hein, parce que du coup, il y a que ces deux catégories.
Oui, c'est ça. C'est co comment faire du coup pour concourir quand on s'identifie ni comme femme ni comme homme, donc comme non-binaire, vu que les compétitions en général, c'est féminin et masculin, entre guillemets, c'est comme ça que c'est nommé. Comment ils font les non-binaires?
Bah, ils font pas. Ils choisissent.
Ok.
C'est horrible, hein. Ils choisissent. Moi, j'ai pas eu ces questionnements-là à avoir parce qu'en fait, quand j'ai commencé, je me considérais femme. Enfin, je comprenais même pas. En fait, moi, j'ai beaucoup été formée sur terrain, sur le tas. Quand j'ai changé de milieu, moi, je venais d'un milieu où les gens, ils sont trop, trop dans la pensée traditionnelle et c'est tout, quoi. Donc, et puis je suis portugaise, quoi. Alors là. Mais du coup, j'ai beaucoup apprécié sur terrain. Donc, au départ, quand j'ai commencé, j'étais femme. Enfin, je me considérais femme. Je savais même pas ce que c'était la non-binarité. Donc, tu vois, j'ai pas eu ça à me poser comme question. Puis, puis c'est venu après, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui a été pensé et fait pour les personnes LGBT. Après, c'est pas du tout une excuse, hein. Il faut jamais voir ça comme excuse, mais c'est vrai que c'est des catégories qui ont été créées des années en amont. Donc ça veut dire que ça se parlait encore moins. C'était un sujet qui se parlait encore moins. Donc les gens, ils se posaient même pas la question. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on a la chance de parler de plus en plus de tout ça, d'être de plus en plus informé de tout ça, que les médias aussi prennent le temps d'en parler aussi et d'éduquer là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses en fait. Pour moi, il n'y a plus d'excuses. Tu dois faire en sorte de t'adapter à l'ère d'aujourd'hui et aux informations que maintenant tu as et qu'avant tu n'avais pas. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être changé. Je pense, alors, j'ai pas envie de dire des trucs que je suis pas censée dire. Du coup, je vais le dire d'une autre manière. Je pense que d'ici à max, soit dans cette édition, soit dans la prochaine, je pense qu'il y aura déjà une catégorie mixte. Et peut-être une catégorie friendly, mais c'est en train d'être parlé, c'est en train de. Donc, ça va prendre son temps, tu imagines bien. On est beaucoup de gens à donner son avis et ça prend énormément de temps à
Oui,
se
en
mettre
tout
en
cas, ça
place.
bouge dans ce sens-là, quoi.
Ouais.
Donc,
En
c'est
gros,
cool.
j'ai voulu m'inscrire dans la catégorie homme cette année-là. Donc, ça allait être là, cette année, puisque jusqu'à là, on n'a pas eu de championnat depuis, vu qu'il y avait le Covid et tout. Et j'ai voulu m'inscrire dans la catégorie homme pour créer de la polémique, exprès. Et pour que ça bouge, quoi. Et sauf que c'est arrivé aux oreilles de l'organisation. Et du coup, ils ont bougé. Et ils ont vu aussi qu'il y avait d'autres personnes aussi qui commençaient à parler en mode, ouais, c'est bon, viens, on fait du mixte. Il y a d'autres pays aussi qui sont déjà mixtes depuis longtemps et qui disent, ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas mixte? Et du coup, je pense que leur gars, bah, bien sûr, elle commence aussi à se poser des questions avec tout ça qui se passe. Plus aussi qui maintenant sont plus informés qu'avant, bah, ils commencent à se poser des questions et du coup on est en train de voir comment faire en sorte que ce soit de plus en plus, je sais pas si j'utilise mon mot, mais inclusif en fait. Tout court. Je pense que ça se trouve là, on va le faire, il va y avoir de la polémique, il va y avoir un truc qui ne va pas aller bien, il y a un truc, il y en a un qui va vouloir faire, mais l'autre il va le faire à l'envers, et du coup ça ne va pas être OK, mais c'est normal, il va falloir changer au bout d'un moment, et pour changer, parfois il faut échouer aussi dans sa manière de tester des choses, quoi, pour que ça passe, quoi. Donc voilà. Parce qu'on ne veut pas non plus, parce que le pays, en fait, où il y a tout un truc, parce que je pense que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, je pense qu'ils doivent se dire, ouais, mais tu fais du mixte et tu te fais plus chier. Sauf que ce n'est pas aussi simple. La France, c'est le plus gros pays de beatbox. Enfin, dans le niveau, on est le plus gros pays, en fait, du monde. Donc ça veut dire que déjà, faire un championnat de France, rien que d'être dans un top 40, c'est dur. Dans le mixte et chez les hommes pour l'instant. C'est très dur. Donc, être champion de France, c'est presque comme être en top 16 mondial, en fait, déjà. Donc, c'est hyper dur. On est beaucoup trop nombreux. Et en fait, si on fait du mix, qu'est-ce qui va se passer? Parce que chez les hommes, comme ils sont beaucoup plus nombreux, qu'ils sont beaucoup plus légitimes la plupart du temps de faire les choses, etc., qu'il y a plus de compétition du coup, bah forcément, ils évoluent plus vite. Je dis pas, attention, qu'ils ont un meilleur niveau. Hein. Je dis, ils sont plus nombreux, ils évoluent plus vite. Et il y a beaucoup plus de gens du coup à avoir du niveau. Parce que nous, on est moins. Donc, on est moins de gens à avoir du niveau. Donc, ça veut dire que si, là, avec notre pourcentage à nous d'existence et le pourcentage des gars, on fait un mixte, il y aura quoi? Deux femmes? Et les autres, du coup, elles font plus de championnat, quoi.
Ouais, c'est
En fait,
excluant, du coup, ça serait excluant, ouais.
ouais, donc en fait, ça marche pas, quoi. Donc, il faut trouver des manières de créer à la limite une catégorie solo à côté. Qui n'est pas une catégorie B, mais une catégorie qui fait un pont pour préparer en fait des gens justement à choper ce niveau top 40 pour le mixte, par exemple. Pour aussi que ça tourne, parce que le problème aussi de beaucoup de disciplines, et pas que le beatbox, c'est que comme à chaque fois, bah, tu as un top 40 et les meilleurs, ils jouent avec les meilleurs, qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs, ils sont toujours les meilleurs, parce qu'en fait, ils s'améliorent toujours, parce qu'ils jouent contre les plus gros adversaires. Donc, ils sont obligés de s'entraîner comme des machines de guerre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne pas, en fait. Et du coup, c'est ça aussi qu'on aimerait changer, qu'il n'y ait pas toujours les mêmes têtes, etc. Quoi, que vraiment les gens ils se disent, OK, c'est possible, c'est possible. Qu'un jour, je serais trop contente qu'un jour, une femme ou une personne LGBT elle finisse championne de France, mais catégorie mixte. Et ce serait une révolution, ça.
Bah écoute, c'est peut-être la prochaine étape pour toi finalement.
Ouais.
Sans transition et sans rapport du tout, on passe au deuxième thème que tu voulais aborder aujourd'hui, qui est Will Smith et sa fameuse gifle. Alors tu m'as précisé en préparant l'interview que le but, c'était pas de débattre de la légitimité ou pas de son acte, mais plutôt de parler des questions du consentement et des violences et du respect ou non par rapport dans l'humour. Donc, qu'est-ce qui t'a titillé sur cette gifle de Will Smith?
Alors voilà, donc le but c'est pas de gossip, clairement pas. Justement, c'est peut-être de venir ramener un peu plus d'intérêt dans ce sujet qu'autre que se mêler de la vie de ces trois personnes. En fait, c'est fou parce que je trouve que les gens ils sont hyper concentrés là-dessus, sur ce que je viens de dire. Mais je pense qu'encore une fois, il y a des questions à se tirer là-dedans. Déjà, elles sont où les limites du consentement là-dedans? Parce que du coup, bah, on a l'homme qui prend la défense de sa femme. Mais est-ce qu'elle a été consentante à qu'il fasse ça? Et de deux, est-ce qu'il y a même un consentement à avoir lieu et place, vu que l'acte qui va suivre suite à ce consentement est de la violence? Donc ça, c'est la première chose à dire. Deuxième chose à dire, c'était de mettre en valeur qu'il n'y a pas qu'une forme de violence ici. Il y en a plusieurs et j'aimerais du coup citer deux. Donc on a celle que tout le monde parle, la gifle de Will Smith, mais il y a aussi Chris Rock en fait, qu'avant crée une sorte de violence parce que il fait de l'humour oppressif. Et ça c'est un des plus gros facteurs qu'on connaît, que rabaisse, que banalise et que incite à d'autres formes de violence dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas dans le monde entier. Et comment dire, est-ce que cette place d'humour oppressif, il a lieu d'être ici? Enfin, déjà, il n'a pas lieu d'être à mes yeux nulle part. Mais si il y a des gens qui pensent que ça dépend des situations, est-ce que dans cette situation, Oscar, il a lieu d'être en plus? Donc, c'est toutes ces questions-là que je me posais et pourrais un peu plus faire comprendre les gens s'ils n'ont pas suivi. Jada, en fait, elle a une maladie qui s'appelle alopécie. Et en fait, il fait une blague un peu trop en allusion à tout ça, en fait. En plus d'envahir un peu l'espace de couple de Will et Jada. En fait, pour moi, il y avait vraiment une forme d'humour oppressif qui a été mise en place et qui a été répandue, donc une violence qui a été répandue par une violence physique. Et tout ça, c'est ce que je me posais. Et puis aussi, dernière chose, c'est de se poser la question. Parce que du coup, on a beaucoup entendu parler de tout ça, mais enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas vu encore, ça se trouve, je ne suis juste pas informée encore, mais je n'ai pas vu qu'est-ce que ça a donné comme répercussion après.
Will Smith, il a démissionné de l'Académie des Oscars et il a interdit d'assister à un événement de l'Académie, je crois, pendant 10 ans.
Oh, ok.
Et il y a plein de films, enfin, il y a un de ses films qui était en cours, qui est vachement retardé dans la production. Il y a beaucoup de distributeurs qui lui tournent le dos et tout. Il y a quand même eu un effet immédiat.
Ok, c'est trop
J'ai
bien.
l'impression, en tout cas, assez important. Enfin, clairement, quoi. En tout cas, beaucoup plus que, par exemple, pour des personnalités accusées de viol ou de violences sexuelles, clairement.
Ouais, donc ça aussi, tu vois, c'est ça que je veux dire, parce qu'en fait, là, pour le coup, tu vois, il y a vraiment un effet aussi que, waouh, tout le monde a vu. Genre, il n'y a pas de témoignage. Il y a tout le monde a vu que Will Smith, il a giflé. Et en fait, le fait que tout le monde a vu qu'il n'y a pas de témoignage, etc. Et que aussi les Oscars du coup ils doivent avoir chaud, bah ils ont agi directement. Mais dès qu'on parle d'autres formes de violence, bah c'est pas le cas en fait, parce qu'il y a beaucoup la question déjà du témoignage et des questions et les gens qui se posent la question avant tout de est-ce qu'elle parle vrai, je pense pas. Et du coup en fait ça allait ramener justement à ce que j'allais dire justement, c'est les conséquences de la violence selon la raison, la situation et la personne qui s'y trouve en fait. Comme si à chaque fois en fait ça avait une influence sur l'acte, alors que pour moi, enfin, l'acte, il doit être indépendant de tout ça, en fait. Enfin, dans la plupart des cas, en tout cas. Enfin, d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses de tout ça.
Oui, non, mais c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis sur la violence de Chris Rock, parce que j'ai l'impression qu'on en parle moins. Et aussi, moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que moi, j'ai été très surprise de voir beaucoup de féministes sur les réseaux dire bah, Will Smith, il a fait ce qu'il fallait faire, il a mis fin, voilà, il a mis fin à la violence que, justement, Chris Rock a produite. Et il a très bien fait d'intervenir. N'importe quel allié, n'importe quel mec allié devrait se comporter comme ça et tout. Et moi, j'avoue que j'ai été super surprise de ce discours-là sous la plume de féministe, parce que moi, je pense que ce n'est pas du tout une solution. Et c'est aussi... Enfin, encore une fois, c'est la femme qui a été complètement invisibilisée. On a parlé à sa place, on s'est moqué d'elle. Et puis ensuite, on est allé se entre guillemets, défendre à sa place. Enfin, non, merci, non,
en fait. Pire que défendre sa place, il y a une sorte même d'acte très égoïste, parce que du coup, il pense aussi à sa gueule à ce moment-là, en fait, à ce que lui ressent à ce moment-là.
Complètement, puis c'est hyper macho. Enfin, on est quand même...
Ouais. Oui, voilà, tu vois. Et c'est ça, enfin, et même, genre, je sais même pas s'il y a eu des répercussions sur l'humour de Chris, tu vois. C'est ça, c'est toutes ces questions-là que je me pose, genre, déjà, comme tu disais, et très, très bien, si on compare les mesures qui ont été prises par rapport à cet acte et les mesures qui ont été prises par rapport à d'autres situations, donc des agressions sexuelles, du viol, etc., déjà, c'est pas du tout la même. Et il y a un problème parce que je trouve qu'ils ont très bien géré cette situation au contraire d'autres situations. Et en plus, comme d'hab, on voit... En fait, il y a un truc, je trouve, qui est fou, c'est que la violence, tout ce qui est physique, à l'œil humain, en fait, quelque chose qui est physique, c'est une violence considérée hyper chaude, enfin hyper grave, etc. Mais on ne s'en rend pas compte que le verbal, et ça, j'ai beaucoup appris en psycho, c'est une des... La violence verbale, c'est une des pires violences qu'un humain il peut subir aussi, en fait. Et le fait que, en fait, on arrive encore à ce truc de distinguer presque comme si c'était rien, c'était une blague, en fait. C'était une blague, c'était rien. Mais c'est ce qui conditionne, en fait, les comportements et les inégalités depuis le début, en fait.
Oui, je pense que c'est ce que tu dis sur le fait d'être visible ou pas. C'est que là, la gifle, tout le monde l'a vu. Les mots, on les voit pas, on les entend, on sait pas trop ce qu'ils font, on voit pas les traces qu'ils laissent. Il y a pas d'hématome, il y a pas de certificat.
Exactement.
Des unités médico-judiciaires. Enfin voilà, il y a pas de preuve de la violence quelque part, même si on a l'impression que ça va être un jugement hyper subjectif de chacune ou chacun dessus, alors qu'en fait, en effet, pas du tout. Il y a des choses qui sont violentes. On le sait aujourd'hui, mais c'est pas en effet. Enfin, il y a une hiérarchie de la violence, ouais.
C'est ça. Et du coup, c'est toutes ces questions-là que je me posais surtout en fait, finalement là-dessus. Au-delà, c'est pour ça que je suis même pas rentrée en fait sur le côté de prendre la défense au papante, qu'est-ce que j'en pense sur son acte. En fait, il y a beaucoup trop d'autres variables en plus. C'est pas là, c'est déjà de voir qu'il y a d'autres choses là-dedans aussi qu'il faut se focaliser aussi. Je dis pas que, mais aussi. Et que parfois, on a tendance à oublier. Enfin, je vais un peu aller sur hors sujet, mais c'est un truc qui arrive beaucoup. L'humour oppressif et toute la violence verbale, c'est un peu comme les maladies psychologiques. Et les maladies physiques. Quand une personne est malade physiquement, on y croit, ça y est, c'est la... Voilà, on va être là et tout, nanana. Et en fait, quand c'est une maladie psychologique, on est hyper banalisé, parce que ça se voit pas, comme on dit à nouveau. Donc c'est vraiment cette question de visibilité qui m'a vachement dérangée perso, et que je voulais en profiter d'un sujet d'actu qui a été hyper parlé, beaucoup trop même, et peut-être le mettre en évidence, quoi.
Pour finir, le troisième sujet que tu voulais aborder, c'était l'accueil inégalitaire des réfugiés ukrainiens versus les personnes réfugiées d'autres pays. Parce que depuis, comme tout le monde le sait, depuis fin février, l'armée russe a envahi l'Ukraine et l'Union européenne s'est mobilisée pour recevoir les réfugiés ukrainiens. Mais en France, il y a plusieurs assos, plusieurs ONG qui dénoncent la différence de traitement en fait, entre ces réfugiés-là et d'autres réfugiés, notamment des personnes afghanes ou originaires d'Asie, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Ah. Et par exemple, moi, j'avais vu à Calais qu'il y avait des associations qui demandaient des logements pour des personnes à la frontière depuis des années, qui étaient bloquées depuis des années. Et là, il y a des places qui ont été libérées en seulement quelques jours pour les personnes qui arrivaient d'Ukraine.
Donc, c'est évidemment... fou, j'étais en train de lire ça. Ouais. Là, sur mes notes, c'est exactement ça. T'as tout compris.
Mais c'est fou. Alors, évidemment, c'est une super nouvelle hein, que ces personnes puissent être prises en charge décemment et tout. Mais c'est vrai que ça questionne... pourquoi tous les réfugiés ne devraient pas recevoir le même traitement ? Enfin, j'imagine que c'est ça dont tu devais parler.
Alors, je vais te donner la réponse du porte-parole de Zemmour.
On a hâte.
On sait que les Ukrainiens, une fois la guerre finie, repartiront chez eux. Donc, en soi, ce ne sont pas des réfugiés, c'est des faux réfugiés, en fait. Donc, en fait, voilà pourquoi ça agit, selon lui, et selon beaucoup d'autres mentalités que je ne comprends pas. Mais voilà, enfin, moi, je voulais parler de tout ça parce que je trouvais hyper important. Et puis, moi-même, je pense que ça joue beaucoup. Encore ça va, tu vois. Genre, enfin, je viens de Portugal, genre un pays, tu vois, de l'Occident, de l'Union européenne, etc. Mais j'ai quand même vécu ce que c'est changer de pays. Et je pense que du coup, j'ai un peu plus de comment dire, je sais même pas t'expliquer, mais j'ai un peu peut-être un peu plus d'empathie en fait. Et encore, je peux pas savoir ce que ces personnes vivent, ça c'est sûr, ça n'a rien à voir. Mais du coup, je voulais vraiment parler de ce sujet parce que je trouve ça fou. Juste pour t'expliquer, en gros, quand je suis arrivée en France, j'ai été dans une classe qui s'appelle l'FLE ou FLS, en fait, ça dépend. C'est des classes pour aider aux personnes étrangères pour nous intégrer de plus en plus en ayant des cours de français, etc. On est obligé de passer par là en lycée. Et du coup, tu as cette classe et tu as ta classe normale, on va dire normale, tu vois, de français, quoi. Et dedans, bah, j'ai connu énormément de gens qui venaient de situations beaucoup pires que moi, et enfin, c'est pas de situations pires que moi, et de pays beaucoup plus lointains et avec une culture encore plus différente que celle de l'Occident. Et en fait, je sais pas, ça m'a toujours vachement touchée du coup comme sujet, parce que bah, c'est pas rien. Et là, ça m'a beaucoup révoltée. En fait, à côté, j'étais hyper contente que la France se mobilise ainsi que d'autres pays pour les personnes qui essayent de sortir du pays de l'Ukraine, en fait, parce que bah, ils sont en pleine guerre. Genre, ça m'a vraiment fait plaisir, mais d'un autre côté, ça m'a vraiment révolté, en fait, ce qui se passe. Parce qu'en fait, alors ça, c'était des chiffres que j'ai vus il y a quelques années, donc c'est pas les chiffres de maintenant, mais rien que les réfugiés syriens, en fait, les personnes réfugiées syriennes. Il y en a eu environ, en 2011, en tout cas, il y a eu 5 millions d'exilés. Il y en a eu pour 10 000 qui ont vraiment été accueillis en France, en fait, tu vois. Genre, c'est ridicule, en fait. Et quand tu regardes les chiffres d'aujourd'hui pour les personnes de culture ukrainienne, il y a une grosse différence, je trouve. Et enfin, ça me révolte de voir comment il y a une différence de traitement. Là, je te dis très peu, mais j'ai noté, mais là, j'ai 2 pages. J'ai 2 pages que je pourrais te parler. Genre, c'est énorme. Enfin, de voir comment les gens y pensent. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a le... comment les personnes... Il y a une sélection qui se fait beaucoup dans certains pays voisins de l'Ukraine sur qui passe la frontière et qui passe pas la frontière. Et bizarrement, les personnes de couleur, des personnes aussi LGBT, passent pas trop beaucoup, passent pas souvent la frontière.
Oui, on a vu pas mal d'images de ça, de personnes notamment noires qui étaient bloquées pendant que d'autres pouvaient passer. Donc
C'est
oui,
ça.
ça, c'est des choses qu'on a pu voir. Ouais.
Et du coup, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vachement touchée. Et j'avais noté des témoignages, etc., que j'avais écrits. Et que, enfin, il y avait un Sénégalais qui avait essayé de passer en fait la frontière de la Roumanie via la Serbie et qui finalement était victime des violences des autorités frontières, qu'en plus on lui a volé ses affaires. Et que, en fait, ça me. J'ai limite envie de rire dans le fait que, en fait, c'est tellement. On voit que là, dès qu'on s'est mobilisé pour l'Ukraine, il y a des solutions qui sont possibles, en fait, qui existent. Et que, c'est pas que c'est facile, mais c'est faisable. Et on est en train d'aider, en fait, ces personnes-là. Et pareil pour d'autres pays. Et ça fait vraiment plaisir. Et encore, hein, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, je trouve. Mais par la coopération, sans se poser de questions, sans rentrer dans le débat. Juste en le faisant, ça a été d'une grande aide pour beaucoup de personnes ukrainiennes. Et en fait, c'est ça qui me frustre, c'est que on n'est pas capable de faire la même chose pour d'autres pays. Alors que là, on a la preuve que par coopération, on est capable de le faire sans vraiment foutre l'économie du pays comme beaucoup pensent dans le mal, quoi. Et voilà, quoi. Donc, c'est tout ça. Et puis, en fait, c'est fou parce que c'est vraiment un système d'influence. Dès que tu as en fait les grandes têtes qui disent on va aider, on est là, etc., et que ça se met en place, bah, tous les autres gens veulent faire beau aussi. Et comme tu disais très bien, du coup, bah, Calais. Ils ont directement trouvé des solutions qu'ils n'ont pas trouvées pour des personnes réfugiées d'Afghanistan, syriens, etc., qui sont là depuis des années, qui, je ne sais pas si tu as vu des photos, sont dans des très mauvaises conditions.
Si, si, bien sûr, ouais.
Donc voilà, donc, je sais, enfin, je me pose même la question, ce qui est le pire finalement, si c'était la guerre ou si c'était rester là, réfugié comme un... comme traité comme un animal, en fait, presque, dans un pays qu'ils ne connaissent pas.
Oui, même pire parfois, parce qu'on voit que les animaux en demande d'adoption, parfois, ça, je sais pas si tu as vu, ouais, ça va plus vite. Les adoptions de chats ukrainiens ou de chiens, ouais, ça peut aller plus vite que parfois des personnes. Donc,
Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est encore pire, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, je pense que je sais
Ah,
ce
moi,
que
je
tu
suis l'ami des animaux, mais bon, quand même.
Bah oui.
Si on accueille le chat, on devrait accueillir les propriétaires du chat avec, en tout cas.
Oui, voilà.
Pas que le chat, ouais. Clairement.
C'est exactement ça, tu vois. Donc voilà, enfin, je voulais en... Après, voilà, on parle d'actu, donc je viens pas ici apporter des solutions autres. Je viens parler de mes ressentis selon ces trois actualités et des questions que ça me porte. Et peut-être juste via ça, essayer de sensibiliser peut-être les gens. Mais enfin, c'est tout, quoi. Enfin, c'est vraiment...
C'est déjà pas mal, ouais.
Voilà, c'est énorme déjà, tu vois. Enfin, c'est...
Et du coup, question un peu bateau, mais est-ce que tu te considères comme une artiste ou un artiste engagé?
Ouais, je... ouais. Oui. Ouais, je me considère. Mais je pense que j'ai encore du travail à faire.
C'est-à-dire?
Je pense que... En fait, parfois... tu vois, il y a des prods, des sons que j'ai faits, que je les ai toujours pas sortis, quoi. Parce que je parfois c'est dur de porter la parole, en fait, quand tu es concerné. Parce que bah il faut être prêt à s'en prendre plein la gueule, on va dire les choses comme elles sont. Et je pense que sur certains sujets, j'ai été capable de le faire parce que j'avais déjà réglé tout ça avec moi-même, mais il y a d'autres que non. Et du coup, ça m'empêche peut-être parfois de porter ma parole sur certaines situations, alors que je devrais comme tout individu.
Oui, c'est le temps que toi, tu as travaillé suffisamment sur toi, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Je pense qu'un artiste engagé, surtout quand il est concerné, enfin, il a besoin d'un grand travail sur soi. En plus de s'en former énormément et de savoir être un... de porter une bonne parole et une bonne influence sur le monde. Enfin, déjà, au plus de ça, il faut déjà qu'il ait travaillé sur soi pour pas que ça devienne déjà de un qu'une lutte personnelle et de deux que ça par la suite ça devienne un fardeau et que ça lui fasse plus de mal que de bien de parler, en fait. Enfin,
Ouais.
aider, c'est se faire du bien aussi, c'est pas se faire du mal.
C'est quoi tes projets pour les prochains mois? Tu parlais tout à l'heure de. Donc, il y a cet EP Second Souffle, tu parlais d'un nouveau titre qui allait sortir, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un autre titre qui va sortir, que c'est Unstoppable. Donc dans le second souffle, il y a déjà Ocean qui est sorti, Poison qui est sorti. Donc Unstoppable sera le troisième, qui part d'ailleurs du coup de ma lutte en tant que personne LGBT, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis et de comment je m'exprime là-dedans, c'est en anglais. Et un style un peu plus électro-disco et toujours inscrit dans un style électropop. Et en fait, c'est le troisième et dernier titre de ce projet Second Souffle qui était pour moi un peu les trois visages, une présentation des trois visages, donc des trois morceaux de Prisha. Et je travaille déjà sur la sortie d'autres morceaux qui arrivent bientôt. On est déjà en train d'enregistrer et je suis déjà en train de travailler sur d'autres maquettes en plus. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Pour suivre tout ça, bah, sur mes réseaux, quoi, Prisha. Prisha Music, Prisha, Music en anglais, partout.
Ok, c'est noté.
Merci beaucoup.